Bonjour, je suis Sabrina Payet. La justice, un droit pour tous. Au sein de mon cabinet à Toulouse, j'exerce principalement en droit de la famille et en droit commercial. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'une question délicate qui est celle des violences conjugales qui peuvent intervenir à l'occasion d'une vie de couple. Et ça peut s'agir évidemment malheureusement de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques au sein du couple. Alors, qu'appelle-t-on précisément ces violences conjugales qui peuvent, je le précise, intervenir à l'occasion du couple, pendant la vie du couple, mais qui peuvent également être le fait d'un ex-conjoint ou d'un ex-partenaire de PACS ou d'un ex-concubin ou d'un ex-mari ou d'une ex-épouse, le cas échéant, puisqu'il arrive des circonstances dans lesquelles, effectivement, les violences ne sont pas uniquement le fait d'un homme, mais également peuvent être le fait d'une ex-partenaire, d'une ex-conjointe. Les violences physiques, évidemment, on s'en fait une image assez précise puisqu'elles se caractérisent par l'emploi de gestes violents dans le but de blesser l'autre. Et ils peuvent très bien s'agir soit d'une gifle, soit de coups de poing, de coups de ceinture ou le fait simplement d'être bousculé ou tiré par les cheveux. La violence sexuelle, quant à elle, peut prendre différentes formes telles que le viol, l'agression sexuelle ou le harcèlement sexuel, précision étant faite que même à l'occasion du mariage, les faits de viol sont parfaitement reconnus. La violence psychologique est quant à elle un comportement beaucoup plus délicat à établir puisqu'il s'agit d'un comportement beaucoup plus sournois qui est constitué par un ensemble d'actes qui visent à rabaisser ou à dénigrer l'autre. Plusieurs actes peuvent être considérés comme de la violence psychologique, tels que le fait de tenir des propos dévalorisants ou dénigrants, qu'ils soient tenus en privé ou en public. Il peut aussi s'agir d'insulter l'autre membre du couple ou encore de le menacer de représailles ou d'actes divers. Enfin, les violences économiques sont un comportement qui vise à priver l'autre d'autonomie financière et à le placer sous le contrôle de la personne avec laquelle la vie de couple est installée. Il peut s'agir du contrôle total des ressources du couple et de leur utilisation, ou de la privation de ressources de l'autre membre du couple, ou enfin de mettre en danger le patrimoine de l'autre en signant des hypothèques ou en souscrivant des crédits à la consommation. La difficulté face à toutes ces violences, la première des difficultés est bien évidemment le problème de la preuve. Quand effectivement on peut imaginer comment on peut rapporter la preuve de violence physique par le biais de certificats médicaux, il est bien évident que les violences économiques ou surtout les violences psychologiques sont beaucoup plus difficiles à justifier dans la mesure où rarement ces violences sont exercées en public et elles le sont la plupart du temps exercées dans l'intimité du couple et c'est la raison pour laquelle rapporter la preuve est extrêmement difficile. Comment réagir face à un acte de violence conjugale quel qu'il soit ? Dans un premier temps, le premier des réflexes consiste à appeler évidemment les secours, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie. Il peut aussi être possible, notamment lorsqu'il est nécessaire d'avoir des soins médicaux urgents, d'appeler le SAMU en composant le 15 ou les pompiers en composant le 18. Vous pouvez aussi vous rendre à l'hôpital, chez un médecin ou, mais uniquement pour les femmes, chez une sage-femme. Il ne faut pas perdre de vue que médecins ou sages-femmes ou tout professionnel de santé sont soumis au secret médical. Si des violences physiques ont été commises, il faut absolument faire constater les blessures. Cette constatation, si vous en avez la possibilité, doit être le fait d'un médecin légiste, médecin dans une unité médico-judiciaire, c'est-à-dire un service pluridisciplinaire composé de médecins, médecins légistes, infirmières, psychologues, psychiatres ou autres, que vous trouverez la plupart du temps au sein d'un hôpital. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le certificat médical établi par un médecin légiste qui fera foi beaucoup plus que le certificat médical établi par un simple médecin généraliste. Vous pouvez aussi, et enfin, contacter une association ou un organisme d'aide aux victimes en composant soit le 3919, soit en consultant certaines associations, telles que notamment l'association Olympe de Gouges à Toulouse, avec laquelle je travaille en lien direct et avec laquelle j'ai notamment mis en place au sein de mon cabinet une permanence juridique, un vendredi sur deux, de 10h à midi. Mon cabinet est ouvert aux personnes qui consultent l'association Olympe de Gouges et qui souhaitent avoir des conseils juridiques, mais qui ne savent pas à qui s'adresser. En contactant l'association Olympe de Gouges, vous avez donc le calendrier des permanences ouvertes au centre de mon cabinet et vous pouvez venir donc me consulter gratuitement, sans prise de rendez-vous, un vendredi sur deux, de 10h à midi. La question se pose alors de savoir comment vous pouvez être protégé par la justice en tant que victime de violences conjugales. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez, dans un premier temps, faire une demande d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Si cette ordonnance vous est accordée et si vous faites face à un danger grave et imminent, vous pouvez donner votre accord pour obtenir une ordonnance provisoire de protection immédiate. Dans le même temps, vous pouvez également, et j'allais même dire vous devez, c'est préférable, régulariser un dépôt de plainte auprès du commissariat, de la gendarmerie ou entre les mains du procureur de la République. Il n'est pas obligatoire d'être assisté d'un avocat pour effectuer toutes ces démarches, mais compte tenu de leur technicité et compte tenu de l'état émotionnel dans lequel la victime se trouve, il est cependant préférable d'être assisté et accompagné par un avocat. S'agissant de l'ordonnance de protection, c'est une décision qui permet de protéger en urgence les victimes de violences conjugales, même si elles n'ont pas encore déposé plainte. L'ordonnance de protection est rendue par le juge aux affaires familiales et permet de fixer des obligations et interdictions à l'égard de la personne violente, comme par exemple l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, l'interdiction de se présenter au domicile ou au travail de la victime. Elle permet également de se prononcer sur le logement du couple, et plus précisément sur l'attribution du logement à la victime, sur la dissimulation de l'adresse de la victime si elle est relogée. Elle permet également de se prononcer sur l'autorité parentale à l'égard des enfants du couple, sur la prise en charge sanitaire et psychologique de l'auteur présumé des violences conjugales et sur les obligations financières auxquelles l'auteur présumé des violences conjugales peut être soumis. Il convient de préciser que cette démarche de demande d'ordonnance de protection peut être engagée même si l'auteur des violences et la victime des violences n'ont jamais vécu en cohabitation. La procédure débute par le dépôt d'une requête déposée entre les mains du greffe aux affaires familiales par le biais idéalement donc d'un avocat pour que soit rendue une ordonnance qui fixe la date d'audience au cours de laquelle le juge examinera la demande. Le greffe prévient immédiatement le procureur de la République et notifie cette ordonnance. Si vous avez un avocat, c'est celui-ci qui doit se charger de signifier l'ordonnance fixant la date d'audience à l'auteur des violences conjugales. L'audience doit avoir lieu dans un délai de 6 jours à compter de sa date de fixation. Et la décision doit être rendue également dans le même délai. Lors de l'audience, le tribunal analyse la situation et celle de la personne avec laquelle vous êtes marié, pacsé ou en concubinage, à laquelle sont reprochés les faits de violence. Puis, le tribunal se prononce sur la demande d'ordonnance de protection. Cette ordonnance peut être acceptée ou rejetée. Pour éviter d'être en contact avec l'auteur des violences, la victime peut demander que les auditions se passent dans 2 salles distinctes et de façon successive et non concomitante. En cas de décision favorable, l'auteur présumé des violences a l'obligation de respecter les obligations et interdictions contenues dans l'ordonnance de protection, ordonnance de protection dont les enfants du couple peuvent également bénéficier. Ces mesures sont applicables pour une durée de 12 mois à compter du moment où l'ordonnance de protection a été notifiée. Elles peuvent être prolongées si une demande en divorce, en séparation de corps ou relative à l'exercice de l'autorité parentale a été déposée devant le juge aux affaires familiales. En cas de violation de l'ordonnance de protection, la victime, en tout cas titulaire de l'ordonnance de protection, doit en informer la police qui prévient le procureur de la République. Cette violation est punie de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 45 000 euros. En cas de rejet de la requête, le juge peut par contre fixer une autre audience pour statuer sur les autres demandes formulées dans le cadre du conflit familial. Depuis peu, il est possible d'obtenir une ordonnance provisoire de protection immédiate. Ainsi, lorsque est sollicitée une ordonnance de protection, vous pouvez également demander au ministère public que soit rendue une ordonnance provisoire de protection immédiate. Le juge doit alors rendre sa décision dans un délai de 24 heures à compter du moment où il a été saisi. Il faut à ce moment-là que les faits de violence soient non seulement vraisemblables, mais qu'il existe un danger grave et immédiat de violence sur la victime et sur les enfants. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge peut prononcer plusieurs mesures contre l'auteur présumé des violences, telles que l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, mais également les enfants, l'interdiction de paraître dans certains lieux, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, l'obligation de remettre au service de police le plus proche les armes qu'il détient, la suspension du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants du couple, la dissimulation de l'adresse postale de la victime. L'ordonnance provisoire de protection immédiate est valable à compter de sa notification à l'égard de la personne auteur des violences jusqu'à l'audience. Elle s'applique exactement jusqu'au prononcé de l'ordonnance de protection précédemment demandée. Cela étant, pour que l'auteur présumé des violences conjugales soit poursuivi et condamné par des juridictions pénales, il convient dans le même temps de déposer plainte. Ce dépôt de plainte peut avoir lieu avant, après, même au moment de l'ordonnance de protection. Le dépôt de plainte s'effectue en gendarmerie, au commissariat ou entre les mains du procureur de la République, suivant courrier postal. Si la police ou la gendarmerie refuse de recueillir votre plainte pour violence conjugale, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes dans la mesure où ni les services de police ni les services de gendarmerie ne disposent du droit de refuser un dépôt de plainte quel qu'il soit. Ils sont toujours obligés de recueillir une plainte et n'ont aucun pouvoir d'appréciation quant à ce dépôt de plainte. Le dépôt de plainte entraînera une enquête de police qui peut mener à la mise en examen de l'auteur présumé des faits et, à l'occasion de cette mise en examen, une étude d'une éventuelle mise en détention de l'auteur des faits est envisagée. À l'issue de l'enquête, l'auteur présumé des violences pourra être jugé et condamné par les juridictions pénales. À l'occasion de ce dépôt de plainte, mais également à l'occasion de la demande d'ordonnance de protection, peuvent également être demandées la mise en place de dispositifs permettant d'éloigner l'auteur des violences conjugales, comme le dispositif relatif au bracelet anti-rapprochement, qui est un dispositif électronique qui sert à géolocaliser l'auteur de la victime présumée ou non de violences conjugales. C'est un dispositif qui peut être mis en place donc lorsqu'il existe un véritable risque de rapprochement géographique entre les membres du couple, malgré une interdiction prononcée par le juge. Autre dispositif, celui du téléphone grave danger, qui est applicable dans les cas les plus graves de violences conjugales, cas dans lesquels le procureur de la République peut décider d'équiper la personne victime d'un téléphone grave danger, c'est-à-dire un téléphone géolocalisé qui permet, en cas de grave danger, d'alerter les forces de l'ordre par l'intermédiaire d'une plateforme technique facilement joignable. Ce téléphone peut être remis uniquement à condition de ne pas cohabiter avec le conjoint violent s'il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec la victime en vertu d'une décision de justice ou s'il existe une véritable menace d'agression dans un futur proche au regard de pièces justificatives. Les violences conjugales sont aussi l'occasion de prévoir les conditions dans lesquelles les enfants doivent être protégés en cas de violence conjugale. Ainsi, à l'occasion de l'ordonnance de protection, il est demandé au tribunal de prévoir les conditions dans lesquelles la résidence des enfants doit être envisagée et également les conditions dans lesquelles le droit de visite et d'hébergement du parent supposé être auteur de violences conjugales peut être mis en œuvre, voire suspendu ou mis en œuvre dans le cadre d'un centre médiatisé. Il convient de préciser que lorsqu'un parent s'est rendu coupable de violences qui sont qualifiables de crimes ou de délits, à ce moment-là, le retrait de l'autorité parentale peut être envisagé, soit de façon totale ou partielle, mais en tout état de cause, de façon quasi immédiate. En dernier lieu, souvent se pose la question du relogement de la personne victime de violences conjugales. Le fait de subir des violences conjugales peut justifier le départ du domicile familial. Si la victime doit quitter son domicile de manière précipitée, elle peut obtenir un hébergement d'urgence. Et si elle a obtenu une ordonnance de protection, elle peut solliciter également le bénéfice d'un logement social, comme le bénéfice d'aide financière d'urgence, comme l'aide universelle d'urgence qui est versée par la caisse d'allocation familiale. Mais également, elle peut solliciter le bénéfice d'un prêt sans intérêt ou d'une aide financière non remboursable. Je vous dis au revoir. Bien sûr, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter à mon cabinet. Je vous rappelle mon nom, Sabrina Payet. Mon cabinet se situe 14 rue Perras à Toulouse, où vous pouvez prendre rendez-vous en contactant ma secrétaire Mélanie au 05 61 53 36 21.